C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet ce matin pour les commissaires, le débat conservateur en français. Alors, la grande question, bien sûr, qui est le vainqueur de la soirée? Nathalie?
Ben, tout d'abord, Paul, avant de me prononcer, quel débat pénible, hein, faut le dire. Pénible parce que le modérateur avait peu d'expérience, le public était indiscipliné, 3 candidats sur 6 maîtrisaient difficilement le français, mais malgré tout, ma conclusion, celui en fait qui est sorti du lot, c'est définitivement Jean Charest. Et ma conclusion n'a rien à voir avec mon jupon libéral, là, je tiens à le dire. Je tiens à le dire parce que j'entends déjà les auditeurs dire ben oui, on sait bien. Non, mais en fait, il s'est démarqué grâce à son contenu, à sa vision des choses. Puis j'ajouterais que son expérience du gouvernement, alliée bien sûr à sa maîtrise du français, lui a effectivement permis de se démarquer. Il faut reconnaître cependant que Pierre Poilievre est extrêmement habile. C'est un débatteur vraiment dangereux, je dirais. Là. Mais en même temps, je pense que beaucoup de conservateurs hier se sont dit, si on veut avoir un chef qui pourrait battre Justin Trudeau et son gouvernement à la prochaine élection. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés à la conclusion que l'homme de la situation doit être Jean Charest.
Moi, je dirais que le grand gagnant hier, c'est le Parti libéral.
Tu mets la table.
Ouais, ben écoute, premièrement, il y a un choix. Le Parti conservateur en ce moment a le choix entre deux destins, celui de Maxime Bernier ou celui de Jason Kenney. Le destin de Maxime Bernier, c'est de s'enfoncer dans un radicalisme où on n'est plus capable de le suivre, on se demande où il s'en va, mais au moins il est honnête avec lui-même. C'est ce que Poilievre est en train d'essayer de faire en critiquant sans cesse la Banque du Canada, son gouverneur, promouvant les crypto-monnaies, etc., etc. Le destin de Jean Charest, c'est Jason Kenney, c'est-à-dire, je vais essayer d'être raisonnable, mais finalement, je vais me faire dépasser par la droite dans 3 ans, ma droite qui va exiger de moi que je sois de plus en plus radical. Parce que les gens qui votent dans un congrès, dans une chefferie, ce sont des gens qui sont très impliqués. Alors, ce qui est arrivé à Jason Kenney, là, c'est que lui a réussi à ramasser le Wild Rose puis le fusionner avec le Parti conservateur du Canada qui était de bonne famille. Et là, c'est le White Rose qu'il met dehors. C'est ce groupement-là d'une droite religieuse, etc., d'une droite radicale, d'une droite qui n'en finit plus d'exprimer sa colère, son indignation, sa volonté de liberté, mais qui connaît rien des opérations de l'État, qui dit au gars, ben, on veut plus de toi. Tu cries pas assez fort. T'es pas assez méchant. Alors, moi, si j'étais Jean Charest, je voudrais pas être élu.
Ouais, mais en même temps, il veut être élu.
c'est ça son problème, lui.
Ouais, mais tu vois, Luc, en fait, le Canada, ce n'est pas que l'Alberta. Et parce que dans ce grand parti, qui est un parti national, parce que Jean Charest a bien campé cet enjeu, il dit si on veut construire un parti national, ben il faut se comporter comme un parti qui peut faire élire des députés dans tout le Canada. Ben effectivement, le Canada, c'est grand. Il y a les provinces atlantiques, il y a le Québec, il y a l'Ontario. Mais c'est sûr que c'est un conservateur plus campé à droite. Le message de Pierre Poilievre te plaît, là. Évidemment, c'est la liberté, c'est moins d'État, c'est le conservateur. Conservatisme à son meilleur. C'est même le Trumpisme à la limite, là, parce que même Jean Charest a terminé sa conclusion là-dessus. Si on veut, est-ce qu'on veut un parti à l'américaine? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour le futur du Parti conservateur du Canada? Il a dit non, ce n'est pas ce qu'on veut. Là, il a bien campé les enjeux. Tu dis que peut-être que Jean Charest, effectivement, je pense que Jean Charest n'est pas encore défait. Il y a encore des chances pour lui d'être élu. C'est sûr que hier, le débat avait lieu à Laval. Il y avait des partisans de Jean Charest dans la salle, tout comme il y en avait de la part de Pierre Poilievre. Mais le Parti conservateur du Canada est confronté à un choix très difficile qui me semble très clair, mais qui va conditionner l'avenir de ce parti à l'échelle nationale.
Mais j'ai une question, pardon pour toi Nathalie, peu importe lequel gagne, M. Poilievre ou M. Charest, est-ce que ce parti-là est capable de tenir ensemble? Autrement dit, est-ce que des gens vont se tourner de bord en disant « jamais je peux travailler avec un gars comme Poilievre » ou encore « jamais je peux travailler avec un gars comme Charest » ?
Absolument, définitivement, tu as tout à fait raison. La lecture est très, très juste. Ça sera un très grand défi. Et M. Charest aussi, parce qu'il y a une question qui leur a été posée hier sur leur style de leadership, M. Charest a dit « moi, je suis celui qui peut unir le parti, celui qui va respecter l'ensemble des députés. » Écoute, c'était un jab à Pierre Poilievre, là, qui, lui, ne fait pas, est loin de faire l'unanimité, non seulement au sein des militants, mais au sein du caucus focus du Parti conservateur actuellement.
Mais moi, j'ai de la misère à le croire, par exemple, Nathalie, c'est dur de croire. Quand t'entends les hurlements poussés par la foule, quand Jean Charest dit qu'on ne peut pas à la fois voter des lois et proposer de les contredire parce qu'il fait référence au convoi de camionneurs, au fait que Poilievre a dit que c'était une bonne idée d'être illégal dans ce cas-là. Hurlements de la foule. Cette foule-là, elle est sur les nerfs. Tu sais, c'est émotive, là, une partie. Et est-ce que Jean Charest va vraiment être capable de les amener vers une gouvernance à la Mulroney?
C'est son plus grand défi. C'est son plus grand défi. C'est comme monter, c'est comme gravir l'Everest. Est-ce qu'il sera capable de faire? Il y a des limites. Et moi, je pense que, comme Paul l'a dit, qu'il y a des militants qui vont claquer la porte, effectivement, qui vont peut-être se réfugier dans une autre formation politique. Mais le calcul que font des conservateurs, je dirais, plus modérés, c'est est-ce qu'on peut former le gouvernement à la prochaine élection? Et beaucoup, hier soir, en écoutant le débat, se sont dit, attends une minute, là, quand t'écoutes Jean Charest, par exemple, sur les enjeux liés à la santé, c'était, selon moi, le moment le plus fort du débat lorsqu'il a dit, on va réouvrir la loi sur la santé pour permettre aux provinces d'innover. On va aussi permettre au privé de se déployer en complémentarité avec le réseau public. En soi, là, c'est un débat important auquel on est confronté quant à l'avenir de notre système de santé. Quand je l'écoutais parler de la place du Canada à l'international, par exemple, là, en Asie-Pacifique, là, Joe Biden qui convoque là, plusieurs dizaines de pays pour former une nouvelle alliance sur le plan économique, le Canada en est exclu. Jean Charest dit, ben voyons donc, on ne peut pas être exclu d'une pareille entente. Alors, il a dit, moi, j'ai fait libre-échange avec l'Europe, j'ai l'expérience qu'il faut pour permettre au Canada de reprendre sa place sur l'échiquier politique international. Il est crédible lorsqu'il le dit parce qu'il a une fine connaissance non seulement du Canada, mais des rouages entre les provinces et le Canada. Oui. Mais maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour séduire l'électorat, les militants plus de droite? Ça, c'est le grand défi.
Moi, j'aimerais aimer ça entendre des solutions de droite parce que c'est un parti de droite. J'aimerais ça entendre des solutions.
Ben, il y en avait sur la loi et l'ordre, par exemple. Il y en avait.
Bouf, ouais. Mais des solutions opérationnelles.
Rien qui t'a convaincu.
Non, des solutions opérationnelles.
Des baisses de taxes d'impôts.
Ben oui, c'est ça. En ce moment, là, regarde, on parle de ça. Le problème majeur du Canada en ce moment, là, de l'Occident, c'est l'incapacité de trouver du monde pour livrer des services. La solution des conservateurs, c'est couper des taxes et des impôts pour avoir plus de développement. Donc, moins de fonctionnaires. Alors, expliquez-nous comment vous allez régler, vous, par exemple, en disant, oui, on va avoir plus d'immigration, mais pas plus de monde pour traiter les dossiers d'immigrants. Expliquez-nous comment ça marche. Moi, je veux l'entendre. Moi, je suis ouvert à les solutions. Là. Si vous en avez des solutions, est-ce que vous allez traiter...
On va donner ça au privé, ça va être plus efficace.
Ben, peut-être, c'est non, ça. Mais peut-être, ça va être au privé ou à l'extérieur. On va dire, vous ne vous présentez pas au Canada sans que vous ayez eu un traitement de votre dossier dans le pays d'origine. On va envoyer des ressources dans le pays d'origine. Mais n'importe quoi, mais dites-nous quelque chose, par exemple. Ouais, dites-nous pas juste, on va couper les taxes et les impôts. Merci, bonsoir.
Ouais, mais ils ont pas juste dit ça. Sur l'immigration, Luc Jean Charest a dit le ministère ne fonctionne pas. Il a affirmé qu'il est dysfonctionnel. Sur l'immigration, plusieurs s'entendent sur le fait, effectivement, que c'est une voie d'avenir pour le Canada. Mais encore faut-il que le ministère soit capable de livrer et analyser.
Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est les opérations. Opérationnellement, là, tu vas faire comment?
C'est une bonne question. Ça sera peut-être un autre débat. Et après la pause, il y a cette histoire. Avec un premier jugement, un père qui est condamné à payer 30 000 $ à son ex-conjointe parce qu'il a fait de l'aliénation parentale.
La commission Normando-Ferrandaise.
Un père a été condamné à payer 30 000 $ à son ex-conjointe pour avoir fait de l'aliénation parentale. On voit malheureusement ça souvent. Donc, un parent qui se sert de son influence sur un enfant pour parler contre l'autre, dire du mal de l'autre conjoint. Suite à ce jugement-là, d'abord, est-ce qu'un dédommagement, c'est utile? Puis deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour prouver, à moins que ça soit tellement évident, l'aliénation parentale? Luc?
C'est totalement inusité là, qu'il y ait une sorte de pénalité financière, mais on peut comprendre pourquoi. Parce que l'aliénation parentale, ça se fait sur des années, puis c'est à la fin que tu as la preuve ultime, quand il y a le rejet du parent. Et là, c'est ce qui s'est passé. Le père a constamment miné pas juste l'autorité, mais aussi la dignité de la mère. En bout de ligne, l'enfant a été habité chez sa mère. Ça s'est passé très, très, très mal. Il est revenu chez son père. Et finalement, la mère est coupée de l'enfant. Un enfant de 15 ans. Le fils retourne chez son père. Et finalement, le juge, là, il est pris devant un fait accompli. L'accusé aussi, la victime aussi est devant un fait accompli. J'ai perdu toute relation avec l'enfant. Je ne peux pas la renouer, cette relation-là. Et ça, c'est typique. Ça, c'est typique, là. Des témoignages d'hommes qui n'ont pas vu leurs enfants depuis 8 ans. Les enfants refusent de les voir, même à l'âge adulte, refusent de les voir. C'est un véritable drame. Et là, la juge a décidé, alors qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de précédent, a dit, mais moi, je peux pas laisser passer ça. Je peux pas juste dire, OK, ça s'est produit, mais maintenant, il est trop tard. Puis on peut rien faire. Alors, je donne une pénalité. Elle a donné une pénalité de 30 000 $.
Ouais,
est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va devenir une norme? Ça, c'est une question. Mmh. En Belgique, ben, je te laisse parler, Nathalie.
Oui, ben, ce que je pourrais dire, effectivement, c'est une décision inusitée, sans précédent, mais moi, je salue cette décision. Elle est souhaitable parce que l'aliénation parentale, c'est un cancer qui mène la vie de trop d'enfants et de trop de parents. Il faut en parler. Ça demeure, je pense, encore un sujet tabou, malgré le fait que c'est très répandu, et ça crée des dommages incroyables. Il y a des parents, là, qui bousculent, c'est-à-dire qui basculent dans une dépression terrible, le fait d'être privé de voir leurs enfants. Tu parles de 8 ans, Luc, mais des fois, c'est 20 ans, c'est 15 ans.
À tout jamais, ouais. Des fois,
qui se présentent comme de bons parents, puis parce qu'effectivement, leur ex-conjoint, conjointe, pour toutes sortes de raisons, décident de se liguer avec leurs enfants pour miner leur crédibilité, bien, ils se retrouvent isolés, noyés dans un environnement qui les laisse souvent impuissants face à une situation qui les dépasse. Alors, oui, il faut en parler davantage. Et l'autre chose, est-ce que ça fera jurisprudence? Ça, c'est une autre affaire. Mais je sais qu'il y a des avocats qui ont manifesté certains bémols, parce qu'il y a toujours deux côtés de médaille. D'ailleurs, cette cause, la dame en question, elle demandait 125 000 $, puis la juge, après avoir entendu les arguments de part et d'autre, a décidé de trancher à 30 000 $. Mais le message que ça envoie, c'est attention avant de faire de l'aliénation parentale, parce qu'il pourrait y avoir des conséquences rattachées à ça. Mais en bout de ligne, c'est tellement malheureux parce qu'on sait que le Québec est champion des séparations et des divorces. Il y en a qui réussissent très bien leur séparation et leur divorce, mais il y en a d'autres pour qui ça devient l'enfer. Et l'aliénation parentale en est un exemple, malheureusement.
Le problème, c'est évidemment, c'est que la majorité des cas d'aliénation parentale, les causes sont engagées par des hommes. C'est des hommes qui accusent la mère d'aliénation parentale. Et donc, il y a un énorme débat en Belgique, en Suisse, en Italie, en France, parce que ils disent que ça serait une façon pour les hommes de se débattre face à des accusations, par exemple, de négligence, d'abus, de violence. Et là, les féministes disent, là-bas, et il y a quelques féministes canadiennes qui ont participé aussi, l'aliénation parentale, ça n'existe pas. C'est une invention des parents masculins, des pères, pour essayer de se réhabiliter auprès de l'enfant en disant « Moi, je suis bon, mais finalement, c'est ta mère qui m'a monté contre moi. » Alors, c'est un méchant débat. J'aime bien la façon pragmatique dont c'est analysé, c'est-à-dire qu'il y a des façons de déterminer si oui ou non il y a aliénation parentale. Là, il y a 8 critères. T'sais. Est-ce que l'enfant fait preuve d'ambivalence ou pas? Quand un jeune enfant n'a aucune ambivalence et qui dit « Mon père est méchant », on a un indice. Est-ce que le vocabulaire utilisé, bon, il y en a 8. Le problème, évidemment, c'est qu'on se rend compte que si tu passes à travers ces 8-là, c'est une véritable enquête psychologique que tu dois faire avec l'enfant. Donc, longs jugements. Des difficultés aussi d'arriver à une conclusion. Fait que beaucoup de temps passé à la cour, sur le banc, beaucoup d'utilisation de ressources pour arriver finalement à une solution.
Mais ça démontre à quel point c'est un enjeu complexe, d'une part. D'autre part, tu sais très bien, Luc, qu'au Québec, il y a des mères, tout comme des pères, qui font de l'aliénation parentale.
Oh, ben oui.
C'est ça, là.
Oui, oui. Excuse-moi, je te coupe, mais juste pour d'amener de l'eau à ton moulin. Il y a un témoignage de Geneviève Patterson dans le Journal de Montréal, il y a quelques semaines ou jours, là, qui dit qu'elle en a été victime. C'est-à-dire qu'un des parents l'a monté contre l'autre parent, mais de façon grave. C'est-à-dire que pendant des années, elle s'en est pas rendu compte. Puis quand elle s'en est rendu compte, même après s'en être rendu compte, elle continuait d'avoir des doutes sur ce parent-là. Et elle a été coupée de ce parent-là. Elle s'est elle-même coupée et elle dit que ça laisse des traces psychologiques importantes dans ta vie.
Ben oui, pas juste sur les parents, les enfants. Puis, et là, on pourrait parler de la dynamique qui touche les grands-parents, parce qu'il y a des enfants qui privent les grands-parents de voir leurs petits-enfants. Là, quand je parle d'un cancer, là, c'est ce qui mine ce qui était le noyau familial, mais il y a des enfants qui demeurent toute leur vie perturbés par ça, parce que au cœur de ça, tu sais, il y a l'enjeu lié à la loyauté. On te demande à ton enfant de choisir entre ton père ou ta mère. Puis il y a de la manipulation là-dedans. Non, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Puis je suis content qu'on en parle ce matin parce que ça permet aux gens, parce qu'il y en a des gens qui sont victimes de ça, qui savent pas trop ce que c'est. Donc mettre un nom à ça, c'est bien, et ça va permettre de démystifier effectivement ce phénomène qui est trop répandu dans notre société, malheureusement.
Si je peux ajouter quelque chose là, c'est sûr que quand toi-même t'as laissé une personne parce que tu lui as t'as perdu confiance dans cette personne là. C'est un peu tentant des fois, s'il y a des conflits de cette personne-là avec l'enfant, de dire je vais prendre du bord de l'enfant, puis ta mère c'est une ci, puis ta mère c'est une ça, puis t'as bien raison. C'est bien raison. Mais quand tu te divorces, t'apprends une chose. Les gens là qui ont géré des milliers de divorces, là, qui donnent des cours de préparation au divorce, ils t'apprennent une chose. L'amour d'un parent ne remplace pas l'amour de l'autre. C'est-à-dire que toi, tu peux donner 100% d'amour à un enfant, ça ne remplace pas l'amour de l'autre parent.
Mais pensez aux enfants aussi, voilà, Luc. Il faut penser aux enfants. Oui.
Merci à tous les deux.
C'est 23.